Bonjour à toutes et toutes, bonjour Lydie.
Bonjour, bonjour à tous et toutes.
Nous sommes aujourd'hui là pour dialoguer avec Lydie Salvert autour de son dernier ouvrage qui est paru il y a quelques jours, une semaine, « Depuis toujours, nous aimons les dimanches », aux éditions du Seuil. On avait envie, comme l'ouvrage est sorti depuis pas très longtemps, on s'est dit que tout le monde ne l'a sans doute pas lu, donc de commencer par faire entendre un petit peu le texte et la voix de Lydie Salvert, et puis après on discutera.
Depuis toujours, nous aimons les dimanches. Depuis toujours, nous aimons nous réveiller sans l'horrible sonnerie du matin qui fait chuter nos rêves et les ampute à vif. Nous aimons rester longuement, les yeux fermés dans la pénombre et enlisés dans la douceur des draps. Nous aimons nous déplier lentement, lentement nous ouvrir, nous déployer, nous répandre. Nous aimons retrouver la douceur de la main qui dort sur notre épaule et sentir que notre corps est chaud, sensuel, qu'il bat, qu'il est vivant, encore ensommeillé mais vivant et parfaitement improductif. Nous aimons constater qu'une longue semaine de bonheur et de volupté rudement refoulée à présent nous reviennent et rendent notre corps heureux, plus vrai, plus dense et plus abandonné. Nous aimons vérifier que ce corps renaissant n'est en rien empêché, entravé, sanglé dans ses costumes, soumis aux gestes radotés qui chaque jour le jettent au dehors, dans le bruit, dans le froid, dans le jour criard, dans la foule bousculée, dans les mâchoires du métro, à l'usine happée par la vitesse broyeuse des machines, somnambule au bureau, la tête emplie de chiffres et soumis aux logiques du profit à tout prix, mis à disposition. Prenez-le, usez-le, harassez-le, essorez-le comme un torchon, actionnez-le. Et pour ce, nul besoin de menaces, ni de flashball, ni de 49.3. Il suffit d'appuyer sur « on ». Depuis toujours, nous aimons lanterner, buller, extravaguer, dans un parfait insouci du temps. Depuis toujours, nous aimons faire niente, ou juste ce qui nous plaît, comme il nous plaît, et quand cela nous plaît. Quels insensés ceux-là qui méconnaissent cet art. Car vous l'avez compris, la paresse est un art. La paresse n'est pas molasserie poisseuse, n'est pas intoxication cannabique, n'est pas délectation morose, n'est pas léthargie postprandiale, n'est pas neurasthénie chronique, n'est pas détachement veule, n'est pas dédain romantique, n'est pas morne prostration, n'est pas je m'en foutisme mufle, n'est pas indolence blasée, n'est pas dandysme là, n'est pas ce que communément on appelle glande ou glandouille ou flemme ou flémingite ou feignardise ou feignasserie, avec lesquelles souvent on feint de la confondre. La paresse est un art subtil, discret, et bienfaisant, une manière heureuse et chérie des poètes de résister aux mandements que le monde marchand nous inflige avec son ventre énorme et ses dents carnassières.
Alors dans ce passage, déjà, on voit, et même ta lecture en rendait compte, une alternance entre une très grande douceur et ce plaisir-là de... Alors de glander,
extravaguer.
On a une liste assez énorme. J'ai découvert un nombre de mots importants pour désigner cette activité. Et puis assez vite le glissement vers ce qui contraste avec cette paresse et qui est notamment, et on lira un autre extrait tout à l'heure qui rendra compte du mouvement du livre et donc de ce contrepoint qui est le travail forcené et le rythme quotidien. Finalement, le point de départ de l'ouvrage, c'est ce goût pour la paresse ou c'est cette dimension, on va dire, plus politique d'observation d'un monde contemporain qui va de plus en plus vite. Enfin,
c'est les deux sans doute. J'avais constaté, comme beaucoup, qu'après le confinement, nous étions un certain nombre à nous retourner sur nos vies et à reconsidérer nos manières de vivre et de travailler, les conditions dans lesquelles on travaillait. Est-ce que le travail nous laissait vivre, nous rendait heureux, nous faisait créatifs, etc. Toutes ces questions qu'on pouvait se poser. Donc je me suis penchée sur la question du travail pour découvrir que c'était une création sociale, ce qu'on a complètement oublié. Le travail est une création sociale qui date de la révolution industrielle, qui a donc deux siècles. Auparavant, les activités étaient les moyens pour subvenir à des besoins, plus ou moins grands selon le maître qui les ordonnait. Avec la révolution industrielle, le travail, c'est pour créer des besoins à l'infini, dans une course à l'abondance et au profit infini. Et ça change complètement la donne. Ça change complètement la donne. Et dès cette époque, c'est ça qui est drôle, il y a les apologistes du travail, le culte du travail, la religion du travail, et la valeur travail, et le travail qui libère, et qui émancipe, et qui donne un statut social, et qui. Et parallèlement, et quasiment au même moment, il y a des poètes, des écrivains, des philosophes, qui font l'éloge de la paresse comme contestation de ce culte exagéré du travail dans sa conception moderne. Alors les poètes, c'est Théophile Gautier, Baudelaire, Rimbaud, Sully Prudhomme et plein d'autres. Les écrivains, il y en a plein aussi, plein. Melville, j'ai dit souvent que la période du confinement, c'était notre syndrome Bartleby généralisé. Je préférerais ne pas travailler dans les conditions pénibles. Gontcharov, je crois, avec son Oblomov. Il y a Beckett aussi, un personnage Murphy qui est un paresseux, un bourreau de paresse. Et les philosophes, dont Bertrand Russell. C'est magnifique ce qu'il dit, parce que ça n'est pas un révolutionnaire énervé du tout. C'est quelqu'un qui dit il y a deux sortes de travaux. Il y a le travail qui consiste à transformer la matière, et le travail qui consiste à faire ce travail. Et il y a une troisième catégorie, ce sont les grands patrons d'entreprise qui tirent profit et des uns et des autres. Et il dit cette histoire de culte du travail est un préjugé inventé par les classes bourgeoises et qui détiennent le pouvoir pour persuader les travailleurs que le travail libère, qu'il est ci, qu'il est là, etc. Et c'est très, très, très intéressant de le voir historiquement aussi, comment ça se dessine, cette chose.
Et d'ailleurs, le livre, la dernière partie de l'ouvrage, évoque ces différents poètes,
oui,
penseurs. Hein,
c'est vraiment,
c'est pour ça que c'est pas un roman, c'est un ouvrage comme ça. On va en parler.
Oui, c'est pas.
Mais en tout cas, il y a tout ce moment-là qui intervient sur une trentaine de pages comme ça de ceux qui nous aident à penser.
Bien sûr.
La paresse avec la Fargue, surtout l'éloge de la paresse.
Et la Fargue, bien sûr, qu'il faudrait citer en premier, bien sûr.
Un étonnement que j'ai, c'est que cet ouvrage-là, il paraît cette année. L'année dernière, c'était l'irréfutable essai. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tu travailles de plus en plus. Et 2021, rêver debout. 2020. Et là, on est encore, vous le savez pas encore, mais Lydie vient de finir un ouvrage, parce qu'on a lancé aux éditions Lire des Marges, basé à Bordeaux d'ailleurs, un diptyque comme ça, où il y aura un ouvrage de Lydie qui réunit plein de textes, notamment sur, bon, tu peux peut-être en parler mieux que moi, sur la colère, mais qui s'appelle L'honneur des chiens. Et puis il y aura un ouvrage dirigé par Jean-Paul Angélibert, recherche-création, on appelle ça, parce que moi je suis universitaire, où on dialogue comme ça sur nos lectures d'universitaires ou de journalistes avec Lily Sever qui réagit sur nos lectures des textes. Et donc ça va paraître en septembre prochain, donc ça a été un gros travail. Donc voilà, peut-être, est-ce que tu t'appliques
cette... Mais bien sûr que non. Non, mais bien sûr que non. Si le travail était comme le travail que je produis pour écrire, c'est-à-dire choisi, libre, je le fais quand bon me chante, quand ça devient nécessaire pour ma pomme ou pour ce que je crois être les autres. C'est pas la définition du travail telle qu'il est conçu aujourd'hui par les apologistes de la valeur travail. Évidemment, ce serait trop beau. Et ce qui est déroutant, c'est que le mot travail a phagocyté le mot œuvre. On n'ose plus dire œuvre, alors que je sais pas, c'est beau le de vrai, etc. Le travail a complètement avalé tous les sens qui ramènent au travail tel qu'il est conçu par les apologistes du travail du centre.
On va parler de ces apologistes tout à l'heure parce que c'est une sorte de personnage comme ça générique de l'ouvrage. Peut-être j'avais envie de t'interroger parce que aussi tu nous parles tout de suite de cette dimension-là dangereuse, évolution organisée. C'est un format qui est différent, plus par rapport au Seuil et aux autres ouvrages de Lily Salvaire, plus petit, plus poche, qui fait presque manifeste. Enfin voilà, est-ce que ça a été travaillé avec l'éditeur, ce rapport-là au format et la volonté d'en faire un petit objet de,
mais
de poche, peut-être de conseil, de recommandation.
Mais c'est Wallet qui dit que Wallet, c'est mon compagnon, je me permets de le préciser, qui dit que c'est un manifeste de l'indocilité. Ça m'a beaucoup plu.
Ah oui, effectivement. Donc, c'est cet éloge de la paresse, est aussi, tu l'écris, et c'est un des mouvements du livre, de la première partie, un éloge de la pensée.
Mais bien sûr. Alors, c'est Paul Valéry qui dit que la paresse permet cette pause intime qui échappe aux obligations, aux pressions, aux attentes de toutes sortes, et pendant lesquelles l'esprit retrouve sa liberté, donc retrouve sa capacité à penser. C'est en quoi la paresse est dangereuse. Si elle accouche, si elle permet la pensée, les apologistes du travail des autres ont intérêt à nous faire croire que le travail est bénéfique. Je résume un peu schématiquement, mais il y a de ça. Mais elle est aussi un moment pour s'asseoir en soi, pour se parcourir, pour méditer sur le monde, sur les autres, pour s'émerveiller aussi, pour tisser des liens, toutes ces choses qui ne répondent pas aux lois de la société marchande qui, elle, ne recherche que le profit et la production d'objets à consommer. Or, lier des liens, engager sa citoyenneté dans un groupe, ça ne rapporte rien au sens où l'entend la société marchande. Lire, par exemple, peut être considéré non seulement comme une activité inutile, évidemment, et la grande horreur de cette société dite marchande, mais nocive et néfaste, puisqu'elle peut nous inculquer des idées bizarres.
Donc il y a bien une forme de travail paresseux,
mais oui,
ou de paresse travaillant, mais qui serait cette manière-là de,
mais oui,
d'être sans rythme imposé.
Oui, mais mieux que ça, c'est La Rochefoucauld qui a pas mal écrit sur les vertus de la paresse, et il dit la paresse nous incline aux vertus paisibles. La paresse de mentir nous fait sincère. La paresse de se battre nous fait pacifique. La paresse d'intriguer pour parvenir nous fait honnête homme, etc. Et il décline comme ça toutes les vertus de les vertus paisibles de la paresse. Et il finit par dire « Il faut très peu d'efforts aux paresseux pour être bon. » Donc la paresse est aussi une sagesse morale.
Je me demandais comment, comment s'est construit le livre, parce que le livre semble aller, pour reprendre l'expression montagne, à saut et à gambade. Et donc, ma question, c'est comment ça s'est... Quel mouvement ? Est-ce qu'il y avait ce mouvement-là ou est-ce qu'il y avait la volonté de peut-être moins structurer que d'autres ouvrages pour précisément faire un mouvement de pensée comme ça qui part vers quelque chose, qui revient.
Mais c'est le propre de la pensée d'être errante, de quitter le droit chemin, d'aller flâner ici et là, de s'élever tout d'un coup vers les nuages, de redescendre. Le propre de la pensée, c'est d'être zigzagante, de lézarder, et parfois de fulgurer aussi. Et donc le livre, il suit un petit peu, peut-être. J'ai essayé, peut-être cette démarche serpentine de la paresse.
Non, mais exactement, et vraiment ça fait qu'on peut le poser, le reprendre.
Absolument.
Enchaîner des moments de pensée, enfin vraiment.
Oui, rêver, s'endormir sur le livre, c'est conseillé.
J'avais envie que tu nous lises un deuxième extrait qui est un extrait d'une.
Plutonique.
Voilà, plutonique et dans la proposition. Qu'est-ce qu'on fait? Mais tu as commencé à en parler. Qu'est-ce qu'on fait de cette paresse et qu'est-ce qu'on propose pour contrer
Nous revendiquons très calmement, messieurs les apologistes du travail des autres, une paresse décidée, pour reprendre le qualificatif de Nietzsche, une paresse résolue, volontaire, sans remords ni regrets, une paresse désirée, joyeuse, joueuse, consciente d'elle-même et de ses pouvoirs, une paresse souveraine. Et n'allez pas croire, comme votre petit sourire nous le laisse à penser, que ce sont la naïveté, vaines incantations, chapelet de grandes phrases faciles à égrener, ou vagues songes romantiques dont l'irréalisation assure le prestige. N'allez pas imaginer qu'il s'agit de déclarations fleuries destinées à être applaudies par ces esprits friands de pâtés subversives et qui n'aiment rien tant pour s'auto-promouvoir dans les dîners mondains que feindre de maudire le système afin de mieux en sauver les principes. Bref, que nos propositions ne seraient que des mots, des mots, des mots, entre parenthèses, Hamlet Apollonius, du vent, pur prétexte à littérature. Non, messieurs, nous ne mangeons pas de ce pain-là. Il nous serait odieux de faire miroiter des rêves impossibles en avançant je ne sais quel programme aux perspectives idylliques, ainsi que tant de prophètes par le passé le firent pour le plus grand malheur de leur peuple. Nous refusons de jouer les meneurs, les maîtres ou les monarques. Nous disons juste ce que, calmement, posément, nous allons pratiquer dans nos vies quotidiennes et qu'éventuellement quelques-uns, ou peut-être beaucoup, s'aviseront de vivre. Je continue. Désormais donc, ayant saisi l'ivraie à la racine, mis nos pieds dans les plats du CAC 40, balayé sous les tapis de vos énormes consortias, lavé à grande eau les idées préconçues sur le travail et la paresse, ainsi que sur les mensonges qui les fardaient, et battu en brèche l'horreur productiviste coupable, selon nous, de crimes de lèse-vie, nous déclarons, au risque d'être qualifiés d'asociaux, d'extrémistes, de fauteurs de désordre, de prophètes à la noix, d'ennemis de l'humanité ou, pis encore, de dangereux terroristes, nous déclarons simplement que nous cherchons à tâtons, les yeux ouverts dans la pénombre, à humaniser les vies que l'on nous fait et qui ne sont que des foutues saloperies de vie. N'en sommes qu'à nos débuts, mais d'ores et déjà, nous pouvons avancer que, désormais, le travail ne nous définira plus. Hors de question. Et à la demande banale, que faites-vous dans la vie ? Sous-entendu, quel est votre job, histoire de vous situer infailliblement sur l'échelle sociale et de réagir en conséquence ? Nous répondrons joyeusement mille choses, dont certaines d'une inutilité totale et aucune qui nous tienne en laisse. Désormais, nous ne regarderons plus le travail comme constituant le seul espace où se nouent les liens sociaux. Désormais, le travail ne favorisera ni n'abaissera personne. Désormais,
bon, ça c'est vraiment très beau parce que ça nous donne une sorte de ligne de conduite. On retrouve la Lydie Salvaire un peu moraliste, qui ne veut pas être sentencieuse, mais qui aime bien les lignes comme ça. Et puis comme oui, comme une sorte comme ça de d'hypothèse. Ce dont j'avais envie de...
Mais une hypothèse qui n'est pas folle. Non, ouais, mais oui. Qui n'est pas folle. Puisque je citais tout à l'heure Russell, qui très mathématiquement et très raisonnablement et sans exaltation avait calculé que 4 heures de travail par semaine, si le travail était partagé, ce qui n'est pas le cas du tout, suffirait largement pour subvenir à nos besoins, Et Keynes, qui était vraiment un libéral, son ami, qui était lui aussi économiste et mathématicien, dans sa lettre à nos petits-enfants, calcule, lui, le libéral, qu'avec 3 heures de travail par jour, le monde irait parfaitement. Or, ça se heurte à un préjugé idéologique. C'est faisable, ça serait faisable si tout le monde le voulait. Enfin, si tout le monde.
Et si les apologistes du travail n'étaient pas les apologistes du travail,
par exemple. C'est ça qui est troublant, c'est que il a été démontré historiquement que ça n'était pas et d'autres. Hein, je cite ces deux-là qui me semblaient les plus. Et évidemment, Paul Lafargue. Paul Lafargue, donc, gendre de Karl Marx, puisqu'il a épousé sa deuxième fille, Laura, et qui écrit un droit à la paresse en 1880, c'est ça, Stéphane, oui, je crois.
Ça peut à un ou deux ans, je sais pas.
Je crois, et qui est le premier socialo-marxiste à oser remettre en cause la fameuse valeur travail, puisque on avait considéré au tout début que le travail pouvait être émancipateur, même chez les socialistes. Et lui, jette un pavé dans la mare en disant que c'est une chose qui nous a été inculquée et que les travailleurs ont intériorisé jusqu'à faire ce concept le leur. Et dans l'incapacité de prévoir un autre monde que celui que leur soufflaient les apologistes du travail des autres. Et il se met en colère contre les travailleurs. Et il leur dit, mais vous êtes en train de faire le jeu du patronat, etc., en acceptant leurs conditions et en disant merci patron pour le travail. Et il les secoue. Et à l'époque, évidemment, il est très dérangeant. Et ce qui est très incroyable, c'est que son héritage n'a pas été repris par les post-marxistes, mais par les anards, par les libertaires, Bakounine et les autres.
Oui, que tu recites aussi Fourier, et puis oui. D'autres après. Et mais c'est vrai qu'on a de plus en plus. Comme ça, sur des enjeux du féminisme ou de l'écologie, comme ça, c'est entré, comme ça, cette idée de qu'est-ce qu'on fait au quotidien, bien individuellement. Et là, bah, c'est la ce que tu apportes dans ce moment-là, notamment.
C'est facile à dire. Hein.
Ah oui, mais ça peut être concret aussi. C'est vrai que moi, je vais garder cette idée de qu'est-ce que tu fais. Bah, je ne vais pas parler de mon travail.
Ça peut être possible. Oui, parce qu'on se définit presque tous. Mm. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis décorateur, machin chose, etc. Le travail a fini par nous définir comme sujet social et même comme sujet tout court. Or, il y a bien d'autres activités que nous pratiquons, non reconnues par la société marchande, utile, etc., qui sont tout à fait importantes. Pour dire « je suis un grand lecteur » ou « je suis, je ne sais quoi », un grand danseur de tango ou je ne sais quoi.
Et alors, j'avais envie qu'on parle de ce nous qui commence. Alors, j'ai pas vérifié, mais une grande partie des phrases comme ça. Oui. On l'a entendu dans les deux extraits que tu nous as lus. Qui est ce nous?
Ben, c'est. Je voulais que ce soit. Parler au nom de mégalomaniaquement, au nom de la communauté de ceux qui travaillent et qui en pâtissent, et j'en connais beaucoup, pas forcément dans nos milieux, pour parler du milieu littéraire, éditorial, etc., mais dans les milieux ouvriers dans lesquels je suis grandie, le travail était vécu comme une chose tout sauf épanouissante, émancipatrice et de réalisation de soi. Je pense à mon père notamment, il était maçon. Et quand il arrivait le soir, il avait qu'un désir, c'est bouffer, se coucher. Et il fallait pas moufter en tant qu'enfant. C'était ça le régime de certains des travailleurs invisibles et muets. Est-ce que j'ai souvent dit en parlant de la paresse et du travail, c'est qu'il y a autour de nous, je ne sais pas si vous en êtes, une infinité de témoignages sur la difficulté au travail, le fait que le travail nous fatigue, qu'il nous déshumanise, qu'il nous impose des gestes mécaniques, qu'il a une perte de sens, une infinité de témoignages, d'écrits, de chercheurs. Hein, Le Seuil vient de publier un volume de 60 chercheurs en sociologie du travail. C'est Bruno Pelletier qui organise ce recueil, qui tous parlent de ce mal-être au travail. Et à côté de ça, une surdité des sphères qui ont le pouvoir, quand même extraordinaire. Je dis surdité ou déni ou pire indifférence totale à la souffrance des autres. Enfin, et ça m'a aussi frappé au bout d'un moment, à force de m'être plongé dans les récits de ceux qui pâtissent du travail. Et je ne sais pas, on va en parler sans doute, mais il y en a plein. Je cite cette femme oui. de ménage,
Jeanine Moore,
dans le temps. Et chronométré pour faire
le passage.
Hein,
tu veux dire le passage?
Peut-être.
Ça va, je vois qu'on peut.
On a le temps.
Ouais.
Tu l'as trouvé?
Oui, là, page de gauche.
C'est ce que nous a confié Jeanine Moore, 32 ans, mère célibataire d'un garçon de 12 ans, vivant dans la banlieue de Paris et exerçant, pardon, je bégaye aujourd'hui, la fonction de femme de chambre à l'hôtel Altome dans le 4e. En s'excusant de se plaindre de sa condition, alors qu'elle avait la chance d'être de repos tous les week-ends, et par les temps qui courent, c'était plutôt une chance, elle nous a résumé sa journée. Levée 5h30 du matin, 6h RER, bondée d'hommes et de femmes arrachés au sommeil, qui semble déjà fourbu, descente à la station Châtelet, début du travail 7h, ménage complet au rythme de 4 chambres à l'heure. Le pire, c'est le nettoyage des WC. Le chef exige qu'il soit propre comme si on devait y manger. Il dit que la propreté, c'est l'image de marque d'un hôtel et que cette image repose entièrement sur nous. Quatre chambres à l'heure, sans souffler, avec une douleur à l'épaule droite que rien n'apaise. Le docteur a diagnostiqué une tendinite et prescrit des séances de kiné. Mais y aller à quel moment? Retour 16h vers mon F1, si exigu que j'ai casé le lit de mon fils dans la cuisine. Sentiment que le trajet n'en finit pas, que l'odeur piquante des détergents sur mes mains et mes vêtements est toujours là, surtout l'odeur d'Actipur que j'utilise pour les sanitaires. Je me demande si les autres l'aperçoivent. Dans le RER, il y en a qui lisent. Moi, je n'accroche pas. J'ai envie de rien, même pas d'écouter Stromae. Pourtant, sa chanson, L'Enfer, j'ai l'impression qu'il l'a écrite pour moi. J'aime bien l'écouter le dimanche. À la maison, lessive expédiée, ménage expédié, cuisine expédiée, du voir du petit, j'y tiens, je suis sévère. Je ne veux pas qu'il finisse comme moi, mais il est bon à l'école, il est dans les premiers. Mon rêve, c'est qu'il soit ingénieur en informatique et qu'il trouve vite à se caser. 19h, on mange vite fait, on regarde la Starac. On est pour Axel. Il a le regard d'oncle Jean. Quelque chose de triste dans le fond des yeux. Puis au lit, m'affaler et dormir. Que la journée finisse, c'est tout ce que je souhaite. Mon salaire, 11,80 € net de l'heure. Voilà, messieurs, ce que nous apprend Jeanine Moore. Pouvez-vous imaginer un seul instant combien sa condition, considérée comme normale, comme banale, comme ordinaire, est violente? Et ça, c'est le... Ça, c'est la banalité même. C'est la banalité même. C'est ce que font la plupart des gens tous les jours. Ce qu'on a appelé les invisibles, le service à la personne, etc., etc.
Non, mais ce qui est, en t'écoutant, je me dis, c'est vrai qu'il y a, eu une dizaine d'années, beaucoup de travaux de Christophe Desjours d'abord. Après, il y a eu ce Parlement des Invisibles qui avait cette collection qui avait été créée, La Raconter la Vie. Il y avait aussi une enquête Radio France, je me rappelle, avec plein de sortes d'appels à témoignages.
Oui.
C'était incroyable. Ils avaient été surpris de recevoir un nombre de réponses,
c'est incroyable.
De témoignages comme ça en quelques jours ou quelques semaines.
C'est
énorme. Et effectivement, non seulement ça n'a donné lieu à rien au niveau politique, mais même, même à ce qu'on peut considérer comme des régressions sociales.
Oui, absolument.
Tu évoques d'ailleurs dans ces chercheurs économistes, je ne sais plus lequel, mais les hypothèses de je pense à ça, c'est plus récent, de retraite à 50 ans.
Oui.
Bon, bah là, récemment, on a eu un exemple inverse. Voilà, je ne sais pas si tu veux revenir sur ce moment-là.
Oui. Qu'est-ce que j'ai découvert aussi comme loi récente sur ce temps de chômage limité aussi de plus en plus, des fois que la paresse s'installe. Je signale aussi que on trouve la paresse, par exemple, la France flemmarde dans un discours de Pétain. J'ai découvert ça récemment, qui impute la défaite de 40 à la France flemmarde encouragée par le Front populaire de 36, évidemment. Et j'ai trouvé aussi une allusion à la France flemmarde dans un discours de Raffarin, contemporain de Sarko, et qui parle et qui dit, mais enfin, la France n'est pas, comment dit-il, non, comment ça s'appelle, ces foires, n'est pas un Luna Park. La France n'est pas un Luna Park, la France flemmarde. On voit bien combien c'est un préjugé de ceux qui eux, disposent des loisirs. Et c'est Russell qui dit ce préjugé des bourgeois contre les paresseux, c'est parce qu'ils supportent mal que les travailleurs bénéficient des mêmes loisirs qu'eux, et ils finissent par dire que le travail, évidemment, que le désœuvrement évidemment, mène à l'ivrognerie et à la paresse. C'est une thèse que reprend Zola dans l'Assommoir.
Mmh.
Son ouvrier Coupeau, parce qu'il est désœuvré, sombre évidemment fatalement dans l'alcoolisme. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment couru au 19e, que le désœuvrement poussait les classes pauvres à la déchéance. C'est un préjugé. C'est un préjugé.
On monte très très bien avec les références et puis et des passages comme ça, un peu narratifs sur tous ces préjugés qui ont circulé. Je pense à dont on parlait, je crois une autre fois. Moi, j'ai lu un livre.
Il y en a
plein des ouvrages sur ces questions
oui,
ces dernières
oui,
années, parce
oui,
que effectivement,
oui.
c'est quelque chose qui nous affecte au quotidien.
Bien sûr.
Un livre de Laurent Vidal qui s'appelle Des hommes lents et qui montre comment la stigmatisation de la lenteur, elle vient de l'esclavagisme,
bien sûr.
Colonialisme,
bien sûr.
Ouvrier, enfin, qui restitue sûr. Cette filiation-là que tu restitues pas parce que tu pars vraiment du 19e siècle,
bien sûr,
du moment
bien
où
sûr.
Apparaît ce que tu
et le taylorisme et le taylorisme qui fait que le travail au lieu qu'il soit plus créatif, plus libre, etc., est de plus en plus déshumanisé. Et il y a des réflexions aussi sur l'espoir mis dans l'informatisation qui pourrait éventuellement soulager, mais à la condition que ça ne crée pas de nouvelles tâches encore, c'est ce qui arrive souvent, et que il n'y ait pas sans cesse de nouveaux logiciels imposés du dehors, parce que ce qui est remarqué souvent, c'est que le management est conçu par des consultants tout à fait extérieurs. Qui sont dans leur bureau, qui savent peu de choses, et verticalement sur ceux qui doivent le subir, sans délibération, etc.
Et ça marche même pas. C'est-à-dire que c'est...
Oui, c'est ça, bien sûr. Alors, évidemment, il y a des entreprises qui ont compris que, je crois en Allemagne, et quelques-unes ici, où la délibération... des ouvriers entre eux et leur participation aux décisions serait un facteur
intelligence collective.
Voilà, voilà. Mais c'est lent.
Peut-être je vais revenir à ce qui y a, depuis quelques ouvrages, il y a une apparition autobiographique plus visible. Plus assumé, en tout cas. Et là, ça va jusqu'à la création, alors c'est peut-être le contraire de ce que je veux dire, la création d'un personnage qui s'appelle l'ami Salvaire, qui a l'air de donner des conseils. C'est aussi pour rappeler que y a cette dimension-là de d'éloge de la paresse, de cette dimension politique très, très forte, mais il y a aussi toujours l'humour. D'ailleurs, il y a des blagounettes qui sont racontées de temps en temps pour ponctuer. Et voilà, et dans ce qui, moi, m'a fait rire, il y a cette apparition comme ça de l'ami Salvaire, de l'ami Wallet aussi, qui lui donne des conseils.
Il dit que des horreurs.
Voilà, enfin... Qui dit que des horreurs, mais que peut-être tu pourrais porter ou auquel on pourrait adhérer. Je sais plus.
Chaque fois qu'il y a quelque chose.
Par exemple, nous, mille regrets, nous préférons ne pas. Tu faisais allusion tout à l'heure, Bartleby. L'ami Salvaire, qui semble avoir des lettres, ce que ne laisse guère soupçonner la grossièreté de son vocabulaire et de ses formules à l'emporte-pièce, chose que tu pourrais assumer à d'autres moments. Nous signale qu'il s'agit là d'une citation célèbre et reprise souvent de fois. Donc voilà, qui est cet ami Salvaire et pourquoi se dédoubler ainsi énonciativement?
Parce que c'est difficile. Hein, pourquoi ça jaillit un matin, je me le demande encore. Mais peut-être pour dire qu'il y a... que quand on écrit, on est plusieurs à écrire. Il y a la Salvaire... tenté par le lyrisme, puis qui dit oh non, ça va, tu vas pas faire ta mièvre. Il y a la Salvaire raisonneuse qui fait la prof comme ça, qui cite, qui est contente d'elle, etc. Il y a la salvaire de mauvais goût, qui... et celle qui dit des grosses blagues et des grossièretés. C'était parce que sans doute que j'aime profondément l'écriture baroque et qui laisse la place à tous ces registres en nous, parce que rien ne me fait plus peur que les langues uniformes. J'ai l'impression que le totalitarisme a gagné quand il y a une seule langue. Alors, y en a qui disent que c'est le globiche, la langue mondiale, la plus pauvre, la plus stérile, la plus simpliste qui soit, et qui me fait peur si elle contamine la littérature. Et je lui préfère de loin ces langues plurielles, débordantes, plus ou moins bien maîtrisées, mais qui se laissent pas, comment dire, docilement bâillonnées par la langue dominante.
Oui, il y a eu beaucoup de travaux ces dernières années, pareil, sur... On a même repris l'idée de la novlangue qui était chez Orwell, comme ça.
Oui, bien sûr.
Sur la novlangue néolibérale, la langue managériale.
Le globish.
Cette langue uniformisée, le globish, avec un nombre limité de mots, puisque ce qui est important, c'est de se faire comprendre sans équivoque.
Mondialement, et de façon simpliste, sans opacité, de façon la plus transparente, et surtout qui touche le plus grand monde possible. Et j'ai l'impression que ça s'étend. Et que ça s'étend aussi dans la littérature. Mais là, il ne faut pas me pousser parce que je vais être méchante.
En tout cas, ça ne s'étend évidemment pas dans tes ouvrages. Et justement, la création de cet ami salvaire et de ces différentes facettes, en fait, de ce que tu peux être ou de ce nous que tu as envie de représenter à ce moment-là peut être est parfaitement visible dans cet ouvrage. Donc merci pour cet ouvrage-là.
Tu veux pas qu'on lise la fin de Rabelais?
Allez, six.
Parce qu'elle est revigorante.
On va finir comme ça. Vas-y.
L'ami salvaire à côté, c'est de la tisane. Alors c'est ce que Rabelais a écrit sur le frontispice de l'abbaye de Thélème. Ici, n'entrez pas, vous, usuriers, avares, gloutons, lécheurs qui toujours amassaient, grippe minot, souffleurs de brouillard, courbés, camards, qui dans vos coquemards de mille mâts n'auriez pas assez. Vous n'êtes pas écœurés pour en sacher et entasser, flemmards à la maigre face, que la mâle mort sur le champ vous efface. C'est pas moi, hein.
Bon, merci beaucoup Lydie, on va arrêter là cette première partie de l'entretien et on va après avoir un temps de discussion, de questions, tout ça, donc merci beaucoup.
Merci à toi, merci à vous.